Et les matins débutent avec le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. À la une ce matin, c'est une décision inédite. Les épreuves du brevet reportées à cause de la canicule. Le dérèglement climatique s'accélère alors que c'est aujourd'hui que l'Assemblée nationale doit examiner le projet de loi climat et énergie. Analyse de ce texte avec Véronique Rebérotte.
Quel peut être le rôle de la coalition anti-Daesh 3 mois après la chute du dernier bastion djihadiste en Syrie?
Élément de réponse avec Bertrand Galichet dans un instant.
En France, le jeu des alliances a commencé pour la future bataille des élections municipales à Marseille.
Alors qu'Emmanuel Macron rencontrait hier le maire LR Jean-Claude Gaudin, reportage d'Anne Fauquemberg dans ce journal. Et puis 10 ans après la mort de Michael Jackson, nous irons en Côte d'Ivoire où le souvenir du chanteur attire toujours les hommages en dépit des affaires qui entourent le roi de la pop. Et puis la question du jour. Bonjour Guillaume.
Voiture électrique, les batteries sont-elles le point faible de l'industrie automobile européenne? On posera la question à Carole Mathieu, elle est responsable des politiques européennes de l'énergie à l'IFRI.
C'est en pleine semaine de canicule que le projet de loi énergie-climat arrive à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Un texte qui aura valeur de test pour les ambitions écologiques du gouvernement. Il doit fixer les nouveaux objectifs en matière d'énergie nucléaire et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, Véronique Rebérotte.
L'urgence écologique et climatique figure en bonne place dans l'article 1 du projet de loi. Article qui donne les objectifs et les échéances principales en matière de réduction de gaz à effet de serre. Le texte prévoit d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. À cette date, la France ne devra pas émettre plus de gaz à effet de serre que ses forêts, ses sols, ses écosystèmes peuvent en absorber. Cela signifie pour la France de diviser au moins par 6 ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'année de référence de 1990. La semaine dernière, l'Union européenne a échoué à se mettre d'accord sur cet objectif de neutralité carbone en 2050. Le texte prévoit aussi une baisse de notre consommation d'énergie fossile de 40% d'ici 2030 contre 30% précédemment. La fermeture des centrales à charbon d'ici 2022 est aussi actée dans l'article 3 du projet de loi. Des dispositifs d'accompagnement de l'ensemble des salariés et de la chaîne de sous-traitance impactés par les futures fermetures ont été renforcés. En matière de nucléaire, comme prévu, le projet de loi entérine le fait que notre électricité ne proviendra plus qu'à 50% du nucléaire en 2035, 10 ans plus tard que ce que prévoyait la loi de transition énergétique datée de 2015, un horizon jugé irréaliste par le gouvernement. 14 réacteurs nucléaires devraient être mis à l'arrêt d'ici 2035 sur les 58 que compte la France.
Véronique Rebérotte. Les épreuves du brevet des collèges reportées pour cause de canicule. Face à des températures qui devraient dépasser les 35 degrés sur les trois quarts des régions et même atteindre 43 degrés jeudi, notamment dans le Vaucluse, les épreuves prévues à l'origine jeudi et vendredi auront finalement lieu lundi et mardi prochain. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, l'a annoncé hier. Une décision saluée par Jean-Rémy Girard, président du SNALC, le syndicat national des lycées et collèges.
C'est une décision de bon sens, hein, dans le sens où organiser des épreuves d'un examen national par canicule, ça aurait posé énormément de problèmes. Il n'y avait pas de solution parfaite, hein, de toute façon, si on voulait les faire ailleurs que jeudi et vendredi. Il nous semble que la solution retenue par le ministre est cohérente. Pour les enseignants qui ne feront pas grève, puisque nous on est sur un mouvement de grève, hein, en ce moment, ça va pas poser d'incroyables problèmes d'organisation dans le sens où ils vont, de toute façon ils étaient là, ils étaient dans les collèges. Donc c'est plutôt pour les familles que ça va peut-être poser certains problèmes si elles avaient prévu des choses, et ça va repousser les dates de correction des épreuves du brevet, mais ça restera dans l'année scolaire. Donc il n'y a pas de conséquences majeures, je dirais, à ce report. Effectivement, s'il y avait des réunions organisées, etc., va falloir un petit peu faire autrement, mais ça risque pas de poser de gros problèmes organisationnels non plus.
Jean-Rémy Girard répondait à Adrien Palluet. À Marseille, où la température atteindra 32 degrés en fin de matinée aujourd'hui, le sommet des deux rives de la Méditerranée s'est achevé hier. 14 projets ont été mis en avant pour relancer la coopération en Méditerranée, comme par exemple la création d'un réseau d'écoles des métiers de la mer. Un discours d'Emmanuel Macron a conclu ce rendez-vous et le chef de l'État a aussi profité de sa présence à Marseille pour préparer la future bataille des élections municipales. Anne Fauquemberg.
Après avoir conclu le sommet des deux rives, le chef de l'État a déjeuné avec les parlementaires et les élus locaux. Il s'est entretenu longuement avec Jean-Claude Gaudin, le maire LR de la ville. Alors à la sortie, évidemment, difficile d'éviter le sujet.
Alors moi, je ne serai pas candidat au municipal à Marseille. J'aime infiniment cette ville. De toute façon, je considère qu'on ne peut pas se désintéresser de Marseille quand on est président de la République. C'est la deuxième ville de France.
Pas de commentaire en revanche sur cette alliance LR-LAREM qui semble en construction, notamment pour faire barrage au Rassemblement National, arrivé largement en tête aux européennes dans la ville.
Il ne m'appartient pas à ce stade aujourd'hui de la commenter, et je me félicite que beaucoup considèrent aujourd'hui que le clivage se fait entre ce qu'on pourrait appeler des démocrates ou des progressistes et des nationalistes. C'est en effet le clivage dans lequel nos concitoyens s'installent de plus en plus.
Une alliance contre laquelle la sénatrice PS Samia Ghali, un temps pressentie pour faire l'union avec La République En Marche, se prépare.
Si La République En Marche fait l'accord avec les LR, ça veut dire qu'ils cautionnent la politique qui a été menée localement par les LR. Et donc, à partir de là, ils en prendront aussi les responsabilités. Avec ou sans En Marche, je vous le dis, je serai là.
Dans les Bouches-du-Rhône, les marcheurs voient également d'un très mauvais œil ces manœuvres orchestrées depuis Paris, notamment le député LAREM Saïda Hamada, candidat déclaré à l'investiture et qui ne veut pas non plus endosser le bilan de Jean-Claude Gaudin.
Anne Fauquemberg.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de ce fidèle pont. C'est un sommet que les États-Unis présentent comme celui du deal du siècle pour les Palestiniens qui s'ouvre aujourd'hui à Bahreïn.
Cette conférence économique dirigée par le gendre et conseiller de Donald Trump, Jared Kushner, développera le volet économique d'un plan de résolution du conflit israélo-palestinien dont la présentation a été maintes fois retardée. Un plan déjà largement rejeté par l'opinion publique arabe et par la plupart des États de la région. Ce sera l'objet du reportage de France Culture à 7h24. Alors qu'hier, Donald Trump a annoncé de nouvelles sanctions à l'égard de l'Iran, des sanctions financières qui visent l'ayatollah Khamenei et les hauts dignitaires du régime. Téhéran réagit ce matin en ces termes. Washington ferme de façon permanente la voie de la diplomatie. On y reviendra dans le journal de 8h sur France Culture. Des responsables de la coalition anti-Daesh réunis à Paris 3 mois après la chute du dernier territoire du califat autoproclamé à Baghouz en Syrie. Les principaux pays partenaires sont notamment les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Selon les directeurs politiques de cette coalition, ce n'est pas le moment de baisser la garde, notamment face au risque d'attentat, Bertrand Galichet.
Constituée à la fin de l'été 2014, la coalition internationale contre l'État islamique a vocation à durer et pas seulement aux confins de la Syrie et de l'Irak. C'est le message que font passer les pays partenaires engagés dans la lutte contre Daesh, une coalition menée par les États-Unis, la principale puissance militaire, et qui a rassemblé une vingtaine de pays occidentaux et du Moyen-Orient depuis la chute il y a 3 mois du dernier bastion territorial de Daesh et l'annonce du retrait progressif des troupes américaines de Syrie, qui devrait être réduite à 200 hommes, la France insiste pour inscrire dans la durée la lutte contre l'État islamique. Au-delà de l'action militaire, indispensable pour éviter la résurgence de nouveaux foyers djihadistes, les efforts portent sur le démantèlement des réseaux de financement, la déradicalisation et la lutte contre la propagande. La coalition veille aussi à apporter son aide à plusieurs États du Maghreb politiquement fragiles et qui risquent d'être déstabilisés par un retour dans leur pays d'origine de combattants étrangers de Daesh.
Bertrand Galichet. Le Conseil de l'Europe a autorisé hier la Russie à réintégrer son assemblée parlementaire à Strasbourg. Les parlementaires russes vont pouvoir y revenir dès aujourd'hui, 5 ans après l'invasion de la Crimée. Sans pouvoir contraignant, cette assemblée qui émet des recommandations et demande des comptes au gouvernement sur les droits de l'homme et la démocratie était devenue une scène délocalisée du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Camille Magnard y reviendra dans sa revue de presse internationale à 7h35 sur France Culture. En Espagne, les indépendantistes catalans lancent une nouvelle offensive sur le plan économique. Depuis le référendum d'autodétermination illégale de l'automne 2017, le front juridique est en suspens dans l'attente du verdict contre les indépendantistes jugés en ce moment à Madrid. En attendant, les partisans d'une Catalogne indépendante ont mis en place une arme économique sur Internet. Il s'agit d'un moteur de recherche qui propose aux activistes de choisir des entreprises sensibles à leur cause. À Madrid, Mathieu de Taillac.
Le site Internet s'appelle Consum Stratégique, consommation stratégique. Il est doté d'un moteur de recherche. L'utilisateur indique son code postal et le secteur qui l'intéresse. Électricité, téléphonie, carburant, banque, assurance, supermarché ou même syndicat. Il clique et le moteur lui renvoie deux ou trois noms d'entreprises qui soutiennent le principe d'autodétermination de la Catalogne. À l'origine de cette initiative, l'Assemblea Nacional de Catalunya, l'ANC, c'est l'une des deux puissantes associations qui organise toutes les énormes manifestations indépendantistes qui étonnent le monde depuis 5 ans. Par l'économie donc, l'ANC veut faire république, dit-elle sur le site du moteur de recherche. Les promoteurs disent que depuis 8 mois qu'ils appellent à choisir des entreprises patriotes, près de 150 000 Catalans ont changé leur contrat et fait appel à ces entreprises. Le moteur de recherche doit permettre d'enclencher la vitesse supérieure, une action très critiquée par les associations patronales qui dénoncent, je cite, un boycott irresponsable. Un boycott de plus après celui dont est régulièrement victime le cava, c'est-à-dire le champagne local, pris pour cible, lui, par les anti-indépendantistes. Seule une organisation n'a pas critiqué le site, c'est la Chambre de commerce de Barcelone, et pour cause, ses adhérents viennent d'élire une direction ouvertement liée à l'ANC, un symptôme de plus que la querelle catalane investit désormais l'économie.
Mathieu de Taillac. La mort de Michael Jackson, c'était il y a 10 ans, le 25 juin 2009. Si les affaires de pédophilie ont largement écorné l'image du roi de la pop, notamment aux États-Unis, son aura, elle, est restée intacte en Côte d'Ivoire, où Michael Jackson avait séjourné en 1992 à la découverte de ses origines. Notre correspondante Amandine Réau s'est rendue à Crin-Jabo.
Dans le salon du roi Amon Ndoufou V, la photo de Michael Jackson, intronisé prince du royaume du Sanoui. Patrick Aka, conseiller du roi, en garde un souvenir très précis.
Il est venu avec une forte délégation. Nous avons accueilli, mais tellement ils étaient pressés, compte tenu de leur programme, ils ont fait pour tout et pour tout 30 à 40 minutes. Sa famille ici, quand ils ont appris que leur arrière-arrière-petit-fils arriver pour voir ses arrière-parents, c'était vraiment une joie, mais aussi l'émotion. Tout le monde avait les larmes aux yeux.
À la mort de Michael Jackson en 2009, le royaume organise des funérailles. Il négocie avec l'ambassade des États-Unis pour rapatrier le corps à Crin-Jabo, sans succès. Mais en hommage au roi de la pop, une stèle va être construite. L'objectif, attirer les touristes. Ces dernières années, Crin-Jabo aurait accueilli des centaines d'afro-descendants à la recherche de leurs ancêtres. Une chose est sûre, les affaires de pédophilie n'ont pas écorné l'image de Michael Jackson. Les habitants ne veulent pas y croire.
Sur ce sujet, vraiment, j'aime pas trop me prononcer là-dessus parce que moi, je crois pas à tout cela. Alors, c'est pas tout ce que l'être humain dit qui est vrai.
Aujourd'hui, le village célèbre l'anniversaire de la mort de leur frère. Le roi organise une cérémonie privée traditionnelle avec la famille du défunt. Et ce restaurant diffuse des chansons de Michael Jackson qui font toujours danser.
Amandine Réau à Crin-Jabo pour France Culture. La météo, quelques averses sur la Normandie ce matin, soleil dominant partout ailleurs, les températures grimpent encore avec 17 à 32 degrés pendant la matinée, 17 à Saint-Malo, 27 à Paris en milieu de matinée, jusqu'à 28 degrés à Nîmes et 32 degrés au bord de la Méditerranée.